L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans mon travail sur moi-même, la mémoire, parfois transgénérationnelle, joue un rôle assez majeur. Et aujourd'hui, on va se poser des questions sur cette mémoire, sur son passé. C'est quoi la place du passé? Comment fonctionne notre mémoire? Comment on peut éventuellement retravailler son passé? Est-ce que c'est même possible? Qu'est-ce que nous apprennent les neurosciences sur ce sujet? Qu'est-ce que nous apprend la philosophie? Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Charles Pépin, que vous connaissez sans doute. C'est, je sais plus, le troisième épisode, je crois, qu'on fait ensemble. Il a écrit un livre qui s'appelle « Vivre avec son passé, une philosophie pour aller de l'avant ». Et vous allez voir, Charles va encore vous surprendre, parce que d'abord, il parle beaucoup de neurosciences, et on ne s'attend pas forcément à ça de lui. Et puis aussi, tout simplement parce qu'il amène une vision de l'usage du passé qui est sans doute à l'opposé de la manière dont vous l'envisagez. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Charles.
Bonjour, ça va?
Ça va et toi?
Ouais, très bien.
Bon, on est passé par quelques aventures, j'avais oublié un câble, ouais. Mais t'as eu la gentillesse de m'attendre, de me prêter ton vélo. Je suis rentré le chercher. Maintenant, c'est du passé.
Exactement. C'est du passé dont on se souvient. Donc, c'est du passé qui persiste dans le présent.
C'est quoi la place du passé dans nos vies?
Alors, la place du passé, on pourrait dire qu'elle est, double, mais elle est toujours grandissante. C'est-à-dire qu'elle est d'abord de plus en plus grosse, puisque ça paraît une la palissade, mais si on veut bien s'y arrêter, c'est plus surprenant que ça. Notre passé ne fait que grossir avec le temps. Chaque seconde de présent s'en va grossir le passé, si bien que plus nous existons, plus nous avons de passé. Et l'autre existence du passé, c'est que ce passé n'est pas du passé. C'est très rarement du passé. Le passé, c'est quelque chose qui persiste dans le présent, sous de multiples formes. Alors des formes un peu presque, on aurait envie de dire grossières, quoi, qu'on connaît, le regret, le remords, le trauma insistant, la culpabilité, des choses comme ça. Mais aussi, c'est très important, sous des formes beaucoup plus insidieuses, comme des manières de percevoir, des goûts, des dégoûts, des visions du monde, une estime de soi ou son contraire. Et on s'aperçoit qu'il y a plein de présences du passé. Et le propos de mon livre, c'est de dire, voilà, il faut essayer d'être à l'écoute, de mesurer toutes ces présences du passé pour trouver, avec tout ce passé, finalement, qui ne passe pas, soit la bonne distance, soit le rapport qui nous permet d'aller de l'avant.
On se sent souvent prisonnier du passé. C'est-à-dire que dans tous les trucs que tu as nommés, il y en a plein. C'est-à-dire, en fait, ça peut être des mauvaises mémoires, mais ça peut être des traumas. Ça peut être aussi des mécanismes.
Ouais, on a tous des ça. Habitudes,
des réflexes. Ouais. Des réflexes, des choses qui sont... et t'en parles dans le livre, des choses qui sont... que tu répètes de manière complètement inconsciente, par exemple
des schémas de répétition,
c'est hyper présent et souvent on a tendance à penser qu'on est un peu esclave de son passé. Maintenant, il y a eu toute cette tendance autour des mémoires transgénérationnelles, etc. Tu vois?
Alors, une petite remarque d'abord, parce que le ton de notre entretien tout de suite se concentre sur le passé douloureux. La moitié de mon livre, c'est le passé heureux.
Bien sûr.
Et c'est de dire qu'il y a aussi des jolies choses dans le passé qu'il faut apprendre, car ça s'apprend, à se réchauffer à la flamme des bonheurs passés. Donc ça, je le précise tout de suite. Et ensuite, je réponds maintenant à ta question. On est prisonnier du passé. Grosso modo, oui. Simplement, c'est une prison de laquelle on peut sortir. Mais on peut sortir à la condition d'abord de comprendre qu'on est en prison. C'est ça l'idée. C'est que on est héritier de plein de choses. Alors, les schémas de répétition que tu as évoqués, c'est le pire. Hein. C'est vraiment... l'erreur est humaine, mais la répéter est diabolique. C'est ça, le proverbe, si on le va jusqu'au bout. Ça, c'est la prison la pire. Mais il y a plein de prisons qui sont des schémas mentaux, des visions implicites. En neurosciences, on parle de mémoire sémantique implicite pour dire toutes ces visions du monde, des autres ou de soi qu'on ne se sait même pas avoir et qui nous travaillent. Mais... l'illusion, ce serait de penser qu'on va s'en désintéresser, qu'on va laisser ça dans le passé, parce que évidemment, ça nous travaille d'autant plus qu'on ne veut pas le voir. Et mon propos, c'est de dire qu'il faut bien savoir quels sont nos héritages si nous voulons devenir fondateurs. Alors après, il n'y a pas que de l'accueil, il n'y a pas que de l'analyse, il y a aussi de la recomposition, du retravail, de la réinterprétation, et d'une certaine manière, la possibilité d'un voyage dans le passé pour presque le recomposer et redonner une chance à l'avenir.
Tu as utilisé le mot de neurosciences, et moi ce qui m'a marqué quand j'ai lu le livre, c'est qu'il y a en fait une grosse partie finalement où ouais, tu donnes beaucoup de place aux neurosciences. Ouais. Et peut-être que tu nous pourrais nous parler des 5 typologies de mémoire qu'on peut avoir.
Parce
ça c'est un truc que je connaissais pas, comme plein de choses dans le livre par ailleurs. Ouais. Mais les 5 typologies de mémoire, c'était...
Oui, c'est très important. D'abord, une remarque générale, c'est vrai que le livre que je pensais écrire, quand j'ai eu l'idée d'écrire sur le passé, a changé au contact de mon approfondissement des connaissances les plus récentes en neurosciences. Grosso modo, je pensais écrire un livre sur l'acceptation, sur l'accueil, puisque j'avais fait avant 3 livres qui étaient toujours des philosophies de l'accueil, les vertus de l'échec, ne pas être dans le déni, la confiance en soi, accueillir l'absence de confiance, et la rencontre, accueillir l'imprévu, grosso modo. Et donc là, je pensais continuer cette trilogie et dire que le passé, c'est ce qu'il faut accueillir, c'est ce avec quoi il faut faire la paix. J'avais notamment adoré le livre d'un psychothérapeute, Jean-Louis Monestès, chez Odile Jacob, qui porte pour titre « Faire la paix avec son passé », mais qui est un livre de thérapeute, et j'avais un peu l'ambition de faire le livre de philosophie. Mais, on arrive à ta question, quand les neurosciences te disent qu'un souvenir est en grande partie une reconstruction, une fiction, quand les neurosciences te disent que dans le cerveau, les souvenirs ne sont pas localisés, qu'il n'y a pas de, tant que ça, enfin il y a une petite trace matérielle, mais que c'est surtout quelque chose qu'on n'arrive pas à localiser. Quand on t'explique que dès que tu te souviens, tu vas chercher un souvenir dans la mémoire de long terme, qu'il est retravaillé dans la mémoire de court terme, et j'arrive à ta question, qui s'appelle aussi mémoire de travail, et que donc à chaque fois que tu te souviens, tu réinventes en partie, comme les romanciers le savaient, mais là c'est démontré scientifiquement, alors tu te dis, mais au fond, qu'est-ce qu'il y a à accueillir ? Avec quoi il faut faire à la paix si je peux changer ce qui est problématique ? Alors changer en partie, évidemment qu'il y a des épisodes qui ont eu lieu, mais il y a beaucoup de choses que je peux changer. Et puis plus fondamentalement, et ça c'est pas récent, mais moi j'étais pas un spécialiste et j'ai découvert à quel point c'était vrai, c'est que ce qu'on appelle la plasticité neuronale, la plasticité cérébrale, ça fait 30 ans qu'on le sait, mais ça veut quand même dire que dans ton cerveau, tout se remodèle sans cesse, tout se régénère, tout se recompose avec des nouvelles connexions neuronales. Donc là aussi, tu te dis, mais au fond, si tout bouge dans mon cerveau, pourquoi j'aurais accepté un passé qui serait intangible, fixe, objectif, qui d'abord serait passé et qui serait objectif et fixe ? Et en fait, non, il n'est pas passé, il persiste dans le présent, et il n'est pas objectif, il est une reconstruction. Donc j'ai changé de livre. Et j'ai dit, voilà, maintenant, la question, c'est, il faut faire la part des choses entre ce qu'il y a à accueillir et ce dans quoi on peut intervenir, étant entendu que l'accueil est une dimension beaucoup moins centrale que je le pensais, même si elle persiste. Maintenant, je te réponds. Il y a 5 mémoires. Alors, d'abord, il faut savoir qu'on pourrait avoir d'autres typologies. En vérité, c'est pas si précis que ça, mais c'est une façon pour la science de donner un tableau du cerveau.
Alors,
la mémoire épisodique, c'est la mémoire des épisodes vécus. On se souvient que tel jour on a eu tel diplôme, que tel jour on a divorcé, que tel... Voilà. Donc c'est les épisodes vécus. La mémoire sémantique, c'est les notions qu'on a inférées, qu'on a retenues de ces épisodes vécus. Mais il faut distinguer la mémoire sémantique explicite, c'est je sais qu'une table s'appelle une table, qu'un oiseau s'appelle oiseau, que la liberté c'est un concept, de la mémoire sémantique implicite qui nous intéresse beaucoup plus, où là, c'est des règles de vie implicites, des schémas de pensée, qu'on a inféré des épisodes vécus. Et cette distinction est passionnante, parce qu'en thérapie, ce qui va se passer, et même parfois la vie s'en charge, c'est qu'on peut attaquer, ou détruire, ou en tout cas remodeler, des schémas de vie implicites, des schémas de pensée implicites, même si on ne peut pas effacer les épisodes vécus. Ça, c'est la mémoire épisodique. Alors, malgré le film de Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est très bon film, en fait, en réalité, on ne pourra jamais faire ça. on pourra peut-être en parler après, mais on pourra jamais écraser un mauvais souvenir, le faire disparaître. En revanche, on peut, la vie parfois s'en charge, mais des thérapies aussi, intervenir sur la règle de vie implicite qui nous entrave, qui nous handicape, et qui est dans la mémoire sémantique implicite. Ensuite, il y a la mémoire procédurale, c'est les gestes, habitudes. Ensuite, il y a la mémoire de travail, c'est la mémoire de court terme que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est comme une zone pour retraiter les données de la mémoire de long terme et les renvoyer dans la mémoire de long terme. Et enfin, il y a la mémoire sensorielle, qui est la mémoire d'une seconde de la perception, et qui permet de faire le tri, parce que la mémoire fait toujours le tri, elle conserve ce qui est utile pour l'avenir. Et la révolution dans la vision de la mémoire, de ces neurosciences, et c'est ça qui a déclenché mon livre, c'est que la mémoire ne sert pas à conserver le passé. La mémoire sert à faire des prévisions sur l'avenir à partir de ce qu'elle conserve du passé. Mmh. La mémoire est prédictive. Autrement dit, notre mémoire, et c'est ce que disent les neuroscientifiques, j'ai eu des très belles discussions avec Lionel Nakache, dont j'ai lu les livres, avec Albert Moukébert, mmh. Ce que disent ces neuroscientifiques, c'est que, au fond, la mémoire est tournée vers l'avenir. C'est la mémoire du futur. Alors, évidemment, elle est tournée vers le passé, mais pas du tout dans une logique de conservation objective de ce qui a eu lieu, pour qu'on fasse des inférences statistiques de ce que pourrait être l'avenir. Et du coup, le sous-titre de mon livre s'explique. Philosophie de la mémoire, vivre avec son passé, une philosophie pour aller de l'avant. C'est qu'au fond, le problème souvent, c'est que j'ai vécu un truc douloureux, une humiliation, une adolescence difficile, ou même une scène. Et à partir de là, je fais des inférences statistiques abusives. Et on va essayer de corriger ça pour relancer la marge vers l'avenir. Je prends un exemple. J'ai été, donc ça m'est pas arrivé d'ailleurs, mais c'est un exemple, je dis jeu pour que ce soit plus clair. J'ai été harcelé au collège ou au lycée. J'ai vécu des épisodes, quelques épisodes douloureux pendant 2 ans, quelques fois. Et du coup, j'en ai inféré de ces épisodes, donc mémoire épisodique, une règle de vie implicite que j'arrive même pas à nommer. Et cette règle de vie, c'est pour pas que ça arrive à nouveau, pour pas que je sois de nouveau blacklisté ou humilié ou cloué au pilori. Et ben du coup, je reste dans l'ombre, je ne fais pas de vagues, je ne prends pas la parole en public, je ne déclare pas mon amour, je ne candidate pas à un poste important, parce que je veux surtout pas que de nouveau on me tombe dessus et qu'on me harcèle ou qu'on m'humilie. Eh bien, en fait, cette règle de vie-là, d'abord, souvent, on n'en est pas conscient. Elle est dans une mémoire qui ne fonctionne pas comme la mémoire épisodique, qu'on appelle la mémoire sémantique implicite, et on peut la travailler. Parfois, la vie s'en charge. Vous pouvez tout à fait, la vie peut vous offrir une expérience où le hasard fait que vous prenez la lumière, que vous sortez du rang et que tout le monde vous aime et vous découvrez que vous n'aviez aucune raison de rester dans l'ombre depuis 25 ans. Il y a une très belle scène comme ça dans Persepolis de Marjane Satrapi où la jeune héroïne, elle est persuadée que le bonheur d'une femme, c'est d'être heureuse avec son mari, elle vient de se marier, elle pense qu'il faut aimer pour la vie et elle est effondrée parce que ça se passe mal avec son mari et elle va pleurer chez sa grand-mère. Et sa grand-mère lui dit « Mais qu'est-ce que tu as, ma petite ?» Donc c'est un climat de guerre, en plus, on a peur qu'il y ait des morts et tout. Et elle a peur de dire ce qui ne va pas. Pour elle, c'est horrible que son mariage batte de l'aile au bout de 6 mois. Et dès qu'elle lui dit ça, en pleurant, sa grand-mère éclate de rire avec beaucoup d'amour et d'empathie. Elle dit « Mais c'est juste ça, ma petite fille. Mais on s'en fout de ton mariage. C'est pas grave, il y en aura d'autres. » Et soudain, cette phrase de la grand-mère, elle produit cette déconstruction d'un schéma implicite dans la mémoire sémantique implicite et elle change sa vision du monde. Et bien cette vision du monde, voyez-vous, elle était, ou cette vision du monde, vois-tu, elle était produite par le passé. Elle était héritée du passé. Et autant, on ne peut pas changer le passé, mais on peut changer les règles de vie que ce passé a gravées en moi. Heureusement, pas gravées de façon indélébile. C'est là qu'il y a un espoir très important pour vivre mieux. Mais j'insiste, il y a les thérapies, mais il y a la vie. Et les thérapies, c'est juste quand la vie ne suffit pas. Mais bien souvent, la vie suffit.
Donc tu dis, j'avais cette question, à quoi ça sert la mémoire? Et en fait, la mémoire, ce que tu dis, c'est que ça sert à prévoir l'avenir. Donc ça, c'est un point de vue qui est intéressant, parce que tu vois, c'est pas la manière dont on envisage la mémoire.
Bah oui, et de toute façon, l'homme ne conserve pas gratuitement. De toute façon, Nietzsche l'avait déjà vu. Quand on se tourne vers le passé, c'est pour l'avenir. C'est parfois, mais encore rarement, pour mieux vivre au présent, mais c'est pour aller de l'avant. Dans la seconde considération intempestive, un très joli texte de Nietzsche, qu'on appelle parfois aussi seconde considération inactuelle, il dit que l'utilité des études historiques, l'utilité de se tourner vers le passé, c'est de construire l'avenir. Et que de ce point de vue-là, il n'y a pas d'ailleurs d'objectivité du passé. Ce qui compte, c'est quel est le rapport au passé, qui ouvre un bon rapport à l'avenir. Et ça, c'est passionnant aujourd'hui, par rapport à la fois à une certaine crispation réactionnaire. Hein. C'est sûr que quand on voit Éric Zemmour, on n'a pas l'impression qu'il soit très heureux et qu'il aille beaucoup de l'avant, parce qu'il est crispé, parce qu'il essentialise son passé. Mais à l'inverse, symétriquement, dans une certaine idéologie woke, il y a de même un rapport au passé qui n'ouvre pas l'avenir. Quand on veut juste déboulonner dans une rage vengeresse, on ne construit pas l'avenir non plus. Donc, je pense que ce qui est bon dans l'esprit woke, c'est l'esprit critique, mais il faut que quand on déboulonne une statue, on ait aussi envie d'en construire d'autres et de construire le monde de demain. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est quel est le rapport au passé qui ouvre un rapport à l'avenir. Et cette question, c'est celle de Nietzsche.
Alors du coup, ce que tu dis, c'est pas « je pense donc je suis », c'est « je me souviens donc je suis », c'est ça?
Alors ça, c'est la question de l'identité. C'est sûr que, dit comme ça, c'est un peu provocateur, mais quand j'arrive à ça dans mon livre, j'ai mis 30 pages à y arriver.
Ouais,
en fait, c'est pour poser la question de l'identité.
Il faut que les gens lisent le livre.
Oui, c'est une bonne idée, mais j'ai quand même essayé de répondre. C'est qu'au fond, la question de l'identité est une énigme très complexe. Qu'est-ce qui fait que moi, je suis moi? Qu'est-ce qui fait que toi, Grégory, tu es Grégory? Personne n'a vraiment la réponse. Hein. Pour tous les psychanalystes, le moi est protéiforme et il n'y a pas vraiment d'unité centrale. D'un point de vue physiologique non plus, en 7 ans, toutes les cellules de ton corps se sont régénérées. Ton cerveau est plastique. Donc bon, bref. Alors l'ADN peut-être, mais est-ce que toi, tu te sens vraiment... Est-ce que tu t'identifies à ton ADN? Je ne suis pas sûr. Donc la question, c'est... Et la réponse des croyants dans l'histoire de l'Occident, ça a été « c'est Dieu qui assure la permanence de mon âme et c'est en Dieu que j'existe ». Et la réponse de Descartes, qui est croyant à sa manière, mais de façon un peu subversive, c'est « je peux douter de tout, mais quand je vois que je pense, je sais que j'existe, donc je pense, donc je suis ». C'est pas très convaincant, parce que le fait de penser, ça me dit pas qui je suis dans ma singularité et dans mon identité. Et alors, il y a eu beaucoup d'attaques très, très radicales des philosophes relativistes ou empiristes, comme David Hume, qui ont dit « mais en fait, si je me retourne sur moi-même et que je cherche le moi, que je cherche mon identité, je ne la trouverai pas. J'aurai ce souvenir, puis cet autre, cette impression, puis cet autre, dans un ensemble hétérogène, fluctuant, mobile, incohérent. » Et il s'est arrêté là, avec une radicalité sublime. David Hume est le plus grand génie de tous les temps. Mais il a un peu de mauvaise foi. Et un autre Anglais qui arrive un petit peu après, John Locke, lui dit « Mon ami David, tu fais semblant de ne pas voir que quand tu te souviens de ce souvenir il y a 35 ans, et de ce souvenir il y a 20 ans, et de ce souvenir il y a 5 ans, eh bien en fait, c'est toujours toi qui te souviens. Et qu'il y a peut-être un point commun entre tous ces souvenirs, c'est que c'est la même personne qui les a vécus. » D'où la proposition dingue de John Locke, qui est de dire que l'identité et la mémoire vont ensemble. Et on le voit bien quand on a des patients atteints d'Alzheimer, qu'ils ne savent plus qui ils sont, et que parfois même, nous les proches, on a du mal à les reconnaître. Donc, et c'est aussi ce que filme merveilleusement David Lynch, hein, quand il y a des pertes de mémoire, il y a des crises identitaires, on voit souvent ça dans ses films. Ça veut dire que si je veux savoir qui je suis, il faut que je me souvienne de mon chemin de vie, de mon histoire. Et ceci pour une autre raison, Grégory, c'est que c'est pas simplement que je me souviens et que de manière un peu proustienne, entre la diversité de mes souvenirs, au milieu de cette multiplicité, je sens la présence de mon moi. C'est aussi que je vais, en me retournant sur mon passé, entendre ce qui compte pour moi et ce qui m'a pas plu. Là où je me suis pas rencontré, là où c'était pas bon pour moi, et inversement, là où c'était bon pour moi. Par exemple, si tu te retournes sur ton passé, tu vas voir que telle rencontre t'a fait du bien, que telle autre t'a diminué. Tu vas voir que tel métier ou tel poste t'a éveillé, que telle autre t'a écrasé. Et tu vas alors reconnaître le moment où la vie est faite pour toi. C'est ce que dit Bergson, le moment où s'élève la mélodie intérieure de ta subjectivité. Bref, il faut reconnaître cette note. Et c'est grâce à la reconnaissance de cette note, on pourrait dire identitaire ou singulière, mais plus subjective, que tu vas pouvoir aller de l'avant d'une manière qui te correspond, d'une manière